En octobre, Sequoia fêtera ses 40 ans. On prépare aussi notre retour dans Saint-Roch et on a besoin de vous. C'est le moment ou jamais d'appuyer Sequoia en devenant membre ou en renouvelant votre adhésion. En devenant membre, non seulement vous contribuez financièrement au dynamisme de Sequoia, mais vous démontrez aussi votre soutien à votre radio communautaire. Parce que soutenir une radio communautaire, c'est s'assurer de plus de diversité dans le milieu médiatique, c'est soutenir l'information locale et hyperlocale, c'est se donner les moyens d'accéder aux médias en tant que citoyens et citoyennes pour devenir membre. Visitez le site web sequoiafm.org et cliquez sur « Devenir membre » ou venez nous voir en personne au 191 rue Saint-Claude.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 1er novembre 2024. Le syndicat canadien de la fonction publique reproche au gouvernement de manquer de rigueur dans la juste rémunération de son personnel dans le secteur de la santé et des services sociaux. Les primes négociées, qui devaient s'appliquer au plus tard le 5 octobre 2024, ne sont toujours pas en vigueur. De plus, le paiement de la rétroactivité se fait lui aussi attendre. Le SCFP ajoute que des milliers de travailleuses et travailleurs du réseau devraient aussi recevoir des paiements rétroactifs d'équité salariale en date du 31 octobre 2024. Le gouvernement a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il briserait cet engagement. L'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec, la ISQ, a dévoilé hier son modèle d'habitation inclusive en mixité sociale. Ce concept novateur permet à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou des personnes autistes d'avoir leur propre appartement et de pouvoir vivre de façon autonome. D'ici septembre 2025, 5 habitations inclusives en mixité sociale accueilleront 168 personnes. Un an après leur ouverture, le Barreau du Québec dresse un bilan très positif des 4 centres de sa clinique juridique, dont l'un est situé à Québec. Pour le Barreau, la clinique s'avère une mesure d'accès à la justice nécessaire pour la population. La clinique juridique permet d'obtenir sans frais, en personne ou en consultation virtuelle, de jour ou de soir, des conseils juridiques. Ce service est offert par les étudiants et étudiantes de l'École du Barreau sous la supervision étroite de membres du Barreau expérimentés. La Fondation de l'Aubrivière lance aujourd'hui sa campagne annuelle de financement. Le refuge vise 1,4 million de dollars pour maintenir ses services, un objectif record alors que l'itinérance touche un plus grand nombre d'individus. Le directeur général, Éric Boulay.
Les demandes augmentent de 7 à 15 % par année.
Le profil des personnes en situation d'itinérance a changé ces dernières années. À nouveau, Éric Boulay.
Des nouvelles personnes qui n'avaient jamais cogné à la porte d'un refuge avant, n'avaient jamais connu l'itinérance ou n'étaient jamais venues à l'Aubrivière. Mais ça, malheureusement, il y en a plus que ce qu'on peut maintenant offrir comme service.
Pour donner à l'Aubrivière, visitez le site internet laubrivière.org/donner ou textez le mot vie au 41010. Un reportage complet de la journaliste Alice Zanetta est disponible au ckiafm.org. Ce soir, CKIA souligne ses 40 ans d'existence par une fête sous le thème des années 80, époque où la station est née. Les anciens et actuels bénévoles et employés, les auditeurs et auditrices sont invités à venir échanger et à se remémorer des souvenirs à compter de 19h au Dôme du Centre Jacques-Cartier, situé au 421 boulevard Langelier. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Toute simplicité. White Pond et Walden sont deux cristaux à la surface de la Terre, deux lacs de lumière. S'ils étaient perpétuellement glacés et suffisamment petits pour tenir au creux d'une main, ils se verraient sans doute transportés par des esclaves pour s'en aller orner les chefs de quelques grands empereurs. Mais comme ils sont liquides, vastes et à jamais offerts à nous et à nos successeurs, nous les dédaignons et préférons partir en quête du Kohinoor. Ils sont trop purs pour avoir une valeur marchande. Ils ne contiennent aucune saleté. Ces deux étangs sont infiniment plus beaux que nos vies, infiniment plus transparents que nos caractères. Ils ne nous ont appris aucune vilenie. Ils sont infiniment plus jolis que les mares que les fermiers ont devant chez eux où leurs canards nagent. Ces étangs-là, ce sont les canards sauvages qui viennent les visiter. La nature n'a aucun habitat humain qui sache l'apprécier. Avec leur plumage et leur chant, les oiseaux sont en harmonie avec les fleurs. Mais là où le jeune homme, où est la jeune femme capable de conduire à la beauté sauvage, luxuriante de la nature? Elle s'épanouit mieux seule, loin des villes où ces êtres résident. Ah oui, vous pouvez parler du paradis, vous qui déshonorez la terre.
La cime des arbres, des ombres à la dérive, la nuit aspire le ciel, la lune boit lentement les reflets diamants. Léger, calme, heureux, l'âme en silence chante.
Be
Alors, bienvenue à toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de gaspillage alimentaire. On va parler de gaspillage alimentaire avec Gabriel Dessureau du comité Sauve ta bouffe aux Amis de la Terre de Québec. C'est un comité partenaire avec nous, le comité Simplicité volontaire. Avant ça, ben j'ai ma petite revue de presse puis quelques petites annonces à faire. Dans le Devoir de lundi dernier, Ottawa tarde à protéger le caribou migrateur. On attend beaucoup parler du caribou forestier qui est vraiment menacé, là, qui est dans les zones où on a de la coupe forestière au Québec. Puis il y a un litige là, actuellement entre le gouvernement du Québec et le fédéral concernant le caribou forestier. Mais le caribou migrateur qui est plus connu, les gros troupeaux de caribou qu'on voit dans les films, là, dans la toundra, lui aussi, ce troupeau-là, il est menacé. On dit que Ottawa tarde à protéger le caribou migrateur. Les scientifiques ont recommandé en 2017 au gouvernement fédéral de classer les troupeaux du Québec en voie de disparition. Et il y a eu un moment que ces troupeaux-là étaient immenses, les troupeaux de caribou migrateurs. Puis actuellement, on nous dit que ces troupeaux-là ont diminué. Il y en a deux, là, deux grosses arbres. Ont diminué de 80 % alors 90 % même. Alors, c'était dans le Devoir, ça, de lundi dernier. Ensuite de ça, petit article dans le Devoir de mardi dernier sur les batteries. Produire des batteries au Québec, un projet géopolitique et économique, selon Fitzgibbon. Évidemment, si on veut faire la transition énergétique, on veut sortir des émissions fossiles, de l'utilisation des combustibles fossiles, on devra passer à la voiture électrique et produire des batteries. Et c'est logique, même s'il y a un problème, il y a des environnementalistes ont des sérieux doutes concernant là, la protection de l'habitat, la protection de l'environnement autour de l'usine de batteries. Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'aller là. Il faut sortir des combustibles fossiles. Ici, dans l'article, on parle il y a un consultant qui est venu. C'est M. Stephen Chu, qui était dans le gouvernement américain. Ce qu'on voit arriver présentement, c'est une offre excédentaire de batteries. Et c'est arrivé rapidement, a observé Stephen Chu, ancien secrétaire à l'énergie des États-Unis, sous Obama et prix Nobel de physique en 1997. Pour les plus petites entreprises du secteur, cette surproduction passagère pourrait faire très mal, selon lui. Le professeur à Stanford ne veut toutefois pas détourner le regard des défis à long terme, les problèmes à l'échelle de 50 ans. Il pense notamment aux matériaux de substitution qui pourront un jour remplacer les terres rares, le cuivre et le cobalt, et ce, non seulement dans les batteries, mais aussi dans les moteurs électriques, des trains, des autobus et des tramways, car la voiture électrique ne devra pas toujours être la reine absolue de l'électrification, selon M. Chu. On veut voir les véhicules électriques participer à une transition jusqu'à ce qu'on se dote partout de bons systèmes de transport en commun, a-t-il lancé. Alors, même la voiture électrique va être un outil de transition. On devra un jour se transporter uniquement avec des transports en commun. Ensuite de ça, un article intéressant sur André Bellil, l'écologiste André Bellil, était dans le Devoir de jeudi dernier, hier. André Bellil était de tous les grands combats au Québec. C'est un environnementalisme, plutôt impliqué, concret. Et le titre de l'article, c'est « Le jovialisme, c'est le somnifère le plus puissant ». Alors, il nous rappelle là, qu'on doit être prudent, de pas trop... c'est qu'on a tendance souvent à voir que, bon, les solutions arrivent, on est en train de s'en sortir, mais il faut pas être jovialiste. Puis lui, il a vraiment gardé le morceau. Bien sûr, comme le livre... Il vient de sortir un livre, là, La guerre des fossiles, Bien sûr, comme le livre en témoigne, les écologistes québécois ont célébré de nombreuses victoires depuis 2003. L'abandon de la centrale au gaz du Suroît, la renonciation au port méthanier Rabaska, le moratoire sur le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, la mort du projet oléoduc Énergie-Est, l'abandon des ambitions gazières sur l'île d'Anticosti, le rejet du terminal GNL Québec. Cela dit, M. Bellil déplore l'émergence d'un phénomène dommageable au cours de la même période, le jovialisme climatique. On est à l'ère du jovialisme, du néolibéralisme, entend-il. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Les pétrolières et les gazières bénéficient de ce discours relativiste auquel plusieurs écologistes adhèrent également, selon lui. Et André Bellil, là, tous les dossiers que je viens de mentionner, il était très impliqué là-dedans. Dernière chose, c'est sur l'électricité au Québec, la politique québécoise de l'utilisation de l'électricité. On n'a pas du tout été entendu sur le projet de loi 69, déplore plusieurs groupes. Une centaine de groupes écologistes, citoyens et syndicaux demandent un débat de société sur la réforme de l'énergie. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que on aura un invité intéressant, Pierre-Olivier Pinault, qui va faire une conférence à Sainte-Foy. Et pour le détail de ça, c'est à la fin du mois, c'est le 24 août. Pour le détail de ça, je vous recommande d'aller sur le site des Amis de la Terre, puis on a tout le détail de cette conférence-là. Et justement, ça sera un bon moment pour avoir un échange avec la salle, discuter des enjeux d'électricité au Québec. Pierre-Olivier Pinault, c'est le grand expert de la transition énergétique au niveau de l'électricité. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est le 24 novembre, si je ne me trompe pas, à Sainte-Foy. Alors, voilà, c'est... On prend une petite pause musicale, puis après ça, on va parler de gaspillage alimentaire avec Gabriel Dessureau.
You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Alors, c'était Feeling Good de Nina Simone. Ça vient, cette pièce-là fait partie de la trame sonore du beau film Les Jours Parfaits que j'ai pu acheter en ligne. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu au cinéma, c'est tellement un beau film sur la simplicité volontaire. En même temps, c'est un voyage gratuit à Tokyo. C'est un film que j'ai plusieurs fois que je vous ai recommandé. Alors, c'était Nina Simone, I'm Feeling Good, qui fait partie de la trame sonore du film. Et avant ça, on avait eu Richard Séguin, Walden, de son album Retour à Walden. Et au tout début de l'émission, comme d'habitude, je vous ai lu justement un extrait de Walden de Henri David Thoreau. Alors, Gabrielle.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Gabrielle, que je vous ai présenté tantôt, Gabrielle Dessureau, qui est du comité Sauve ta bouffe aux Amis de la Terre. C'est un sujet important, là, le gaspillage alimentaire. Quand on suit un peu là, au niveau des changements climatiques, là, une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre, c'est la production de la nourriture, puis on a un gaspillage énorme. Hein? Mm-hmm.
Oui, exactement, c'est ça. Il y a un groupe de scientifiques qui étudie c'est quoi qui cause le gaspillage, les problèmes environnementaux, qu'est-ce qui pourrait aider aussi le climat, c'est quoi les solutions. Puis la solution principale, c'est ce groupe-là de scientifiques, je me souviens plus si je l'ai dit, mais c'est le Drawdown Project. Puis la solution principale pour lutter contre les changements climatiques, ce serait de diminuer le gaspillage alimentaire parce que, comme tu le disais, Jacques, ben notre alimentation a déjà tellement d'impact sur le climat que si en plus on jette une partie de cette nourriture-là, puis une partie quand même astronomique, malheureusement, de nourriture, ben là, c'est vraiment catastrophique au niveau de l'environnement.
Ouais. Et c'est une des choses où on a le plus de pouvoir. Là. C'est facile, en tout cas en tant qu'individu, d'améliorer notre alimentation.
Oui.
Puis ça, c'est plus au niveau d'essayer de réduire la consommation de viande, mais aussi de travailler sur la réduction du gaspillage. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'on t'a invité.
Mais c'est drôle que tu parles de viande parce que on y pense pas tout le temps, mais à quelque part, il y a du gaspillage lié avec la production de viande aussi, parce que toute la nourriture que le bœuf ou n'importe quel animal mange, que nous, on finit par manger finalement, mais si on avait consommé la nourriture que cet animal-là consomme, on peut nourrir beaucoup plus de gens comme ça versus juste manger de la viande. Fait que c'est un gaspillage qu'on pense pas tout le temps parce qu'on pense surtout aux quantités de nourriture qui sont directement jetées, mais à quelque part, manger de la viande, c'est aussi un certain gaspillage. Là. Fait que c'est drôle que t'en parles.
C'est un luxe un peu. Là.
Oui, ben c'est ça, clairement, ouais, en effet. Ouais.
C'est certain que c'est... Les gens, c'est difficile à changer les habitudes, c'est culturel, les gens aiment la viande, ça va être difficile, mais il faudrait qu'on voit un peu comme la consommation de viande comme un luxe, qu'on ça devienne plus occasionnel.
C'est ça.
Sinon, moi, j'en consomme plus, là, ça fait longtemps, mais je peux comprendre les gens qui, c'est culturel, il y a un plaisir à consommer de la viande.
Ben c'est ça, exact.
Mais il faudrait en consommer beaucoup, beaucoup moins. Puis peut-être aussi choisir, là, même le poisson, il y a des viandes ou qui sont plus éthiques, qui sont moins dommageables, comme le poulet, par exemple, ou certaines sortes de poissons.
Oui, exactement. Ou même la chasse. Si, tu sais, de laisser les animaux vivre leur vie dans la forêt, je veux dire, je pense que c'est bien mieux que les conditions de vie qu'ils ont en ce moment. Fait que c'est beaucoup plus éthique aussi. Surtout si on mange le produit de notre chasse, mais oui.
Fait que là, quelques minutes, j'aimerais ça qu'on parle, commencer par Sauve ta bouffe.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites, vos activités, puis etc.
Là. Oui. Sauve ta bouffe, c'est à la base, c'est ça, on existe depuis 2012. C'est un projet bénévole à la base, donc qui voulait parler de gaspillage alimentaire. Parce qu'on entend, c'est pas un sujet qui est si récent que ça, là, de jeter de la nourriture, du problème lié à jeter de la nourriture, ça existe depuis toujours, mais depuis 2012, on se rend compte que ça a aussi, comme tu le disais, un impact environnemental. Puis c'est pas juste social, c'est pas juste économique, le problème du gaspillage. Fait que nous, aux Amis de la Terre, c'est ce qu'on voulait montrer aux gens. C'est que, oui, c'est un problème social, c'est un problème économique, mais c'est aussi un important problème environnemental sur lequel on peut avoir un pouvoir à la maison. Puis quand je dis ça, faut pas se leurrer que, oui, on a notre impact à la maison, mais l'industrie a un très gros impact sur le gaspillage alimentaire, puis je dirais que c'est 70 % du gaspillage se fait au niveau de l'industrie. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Si je reviens à ta question, qui est plus... Excusez, je me suis un petit peu écartée. Qui est plus de savoir qu'est-ce qu'il y en a de Sauve ta bouffe, bien, c'est ça. On veut sensibiliser, conscientiser aux enjeux du gaspillage alimentaire, comment, à la maison, on peut réduire. Fait qu'on fait des conférences, on anime des kiosques dans des événements, on a même un livre. On fait des discos soupes aussi. Puis les discos soupes, c'est quoi? C'est qu'on va chercher des aliments invendus dans des épiceries ou dans des commerces. Puis on fait une soupe à partir de ça. C'est surtout des aliments mous, tu sais, des légumes mous. Fait qu'on montre aux gens que ces aliments-là, on peut les cuisiner, même s'ils sont rendus invendables par les épiceries, on peut les cuisiner. Donc, ça nous permet de parler de gaspillage à la fois individuel à la maison, mais aussi du gaspillage de l'industrie qui est pas négligeable.
Je l'ai goûté une fois à votre soupe. Là, c'était un événement qu'on avait au Centre Jean Cartier.
Oui.
Je pense que c'était... Je me demande si c'était pas le Festival de la décroissance.
Ça se peut, oui.
Puis... OK, t'es bonne.
Oui, mais elle change tout le temps. C'est vraiment selon... Tu sais, dans le gaspillage alimentaire, c'est beaucoup ça. C'est on fait avec ce qu'on a. Puis souvent, on a des très belles surprises. Fait que c'est aussi d'encourager les gens à se faire confiance, à développer leur créativité. Ça sert à ça aussi, Sauve ta bouffe. Puis on a une approche quand même positive dans le sens où... Tu sais, oui, c'est un problème, le gaspillage, mais en ce moment... Il y a plusieurs solutions qui sont en train d'émerger. Il y a plusieurs personnes, des organisations qui travaillent à lutter contre le gaspillage de façon très concrète. C'est notamment le cas de Moisson à Québec, qui est associé avec les épiceries, les grosses épiceries pour aller chercher les invendus pour les redistribuer après dans les banques alimentaires puis les cuisines collectives. Fait qu'il y a un gros travail à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, tantôt on parlait de chasseurs, ils ont un programme aussi chasseurs généreux. Fait que là, c'est le temps de la chasse, pour ça que j'en parle. Pour ceux qui chassent puis qui savent pas quoi faire avec leur surplus de viande, ben Moisson a un programme chasseurs généreux. Fait qu'ils peuvent ramasser la viande des chasseurs qui ont en surplus, puis eux, ils vont la distribuer à ceux qui en ont besoin. Là. Fait que, tu sais, le gaspillage, faut toujours penser que faut le réduire pour, entre autres, lutter contre l'insécurité alimentaire qui augmente.
Puis je pense que vous avez des bénévoles dans votre organisme qui travaillent, parce que, oui. Entre autres, au dernier, justement, au Festival de la décroissance, mm-hmm. Il y avait de la nourriture qui avait été préparée par votre groupe, puis ouais. C'était tellement bon.
Oui, on est fiers. On est fiers de ce qu'on a fait au Festival de la décroissance avec notre gang de bénévoles. Parce que, oui... D'habitude, on fait de la soupe. C'est simple, puis bon, tu sais. Mais l'affaire avec ça, c'est que on sait tous qu'on peut faire de la soupe avec des aliments mous. Mais au Festival de la décroissance, on a décidé de s'éclater un petit peu, puis d'essayer de trouver des façons très originales de cuisiner des aliments plus mous, plus moches. Fait qu'on avait des croquettes, on avait des espèces de falafel faites avec des restants de légumes. Tout était végé parce que c'était une exigence du Festival de la décroissance. Pour les raisons qu'on a nommées précédemment encore. Mais c'est ça, là, on avait vraiment un gros menu avec des belles sauces, des salades de patates. Donc, il y avait vraiment plein de belles choses. Puis on est notre comité de bénévoles a vraiment travaillé fort. Là,
puis ça aussi, il y a un préjugé, c'est que les gens connaissent pas la cuisine végétarienne. Malheureusement, même à Québec, on n'a pas vraiment un bon restaurant végétarien.
Mm-hmm. Puis, ben il y en a quelques-uns, mais ils sont peut-être pas si connus là.
Ouais. Ben ou ils vont faire, mais c'est pas spécialisé là, végétarien là.
Ben il y a le Don qui est vegan ici à Québec.
Ah ok, oui le Don.
Même,
oui,
on
c'est
est
vrai.
Proche d'ailleurs là,
c'est
on
vrai.
Est sur Saint-Paul, ils sont sur Saint-Paul eux autres aussi.
C'est vrai.
Il y a Bloom Sushi dans les Limoilou qui font des sushis végé.
Ah ok.
Végé ou vegan, je me rappelle plus, je sais pas. Je suis déjà allée.
Mais le
bon
Don, je suis déjà allée, c'est
ouais,
vrai.
Ouais ouais. Fait qu'il y en a quelques-uns. Il en manque.
Mais c'est que quand on est allé au Festival de la décroissance, puis là, j'ai vu ce que vous aviez préparé, c'est qu'on ne réalise pas la cuisine végétarienne, en fait, est beaucoup plus intéressante qu'on pense. Même que je dirais, moi, personnellement, qu'elle est plus intéressante que la cuisine à la viande. Parce que de toute façon, c'est un plat de viande, puis il n'y a pas beaucoup de créativité. C'est de l'accompagnement à la viande. Mm-hmm. Tandis que là, le plat principal est végé. Puis c'est une cuisine beaucoup plus intéressante que les gens pensent. C'est, mm-hmm. Ça manque, puis je trouve que ça manque justement des... Je sais qu'il y a au Manoir des Augustines, pas Manoir, mm-hmm. mais au Monastère ouais. des Augustines, il y a une cuisinière chef, je ne sais pas si c'est encore là, végétarienne cuisine. Mm-hmm. Puis les salades qu'elle fait, là, c'est incroyable, c'est tellement bon. Alors, ça, c'est les gens ne savent pas, mais c'est pas annoncé parce que c'est pas un restaurant. Mais on peut aller là-bas, demander s'il y a de la place, puis se payer un repas végétarien là-bas. Là, c'est extraordinaire. C'est vraiment bon.
C'est vrai que c'est bon. Je suis déjà allée il y a quelques années quand même, là, mais ça avait été vraiment surprenant. Mais oui, en effet.
Ça fait qu'on va prendre une petite pause musicale, puis on va poursuivre notre discussion là, sur le gaspillage alimentaire.
Le petit coussin dans le coin, ça vient-tu de loin? Les beaux nuages d'Ouar, c'est-tu de l'import? Êtes-vous ouvert depuis longtemps? Habitez-vous toujours chez vos amants? On est tellement bien qu'on sent mal un petit brin. Y'a rien qui sait qu'on est bien. Le beau miroir où ce qu'on a l'air plus jeune qu'on est, c'est plaisant. Louez-vous toujours des canaux volants. Où c'est qui sont les autres? Quelque chose de bon d'entrevision. La fin du monde ou bien quelque chose. Va prendre la chambre avec un lac dedans. Y'a pas de soin, y'a rien qui cite qu'on est bien. Solo. Me demande où c'est calé, à se demander où c'est que je suis. On se lave du bien plus vite, ah oui, là où est-ce que on a le droit de tout dire ici, même la vérité. On a le droit de tout faire, même rien. Y'a rien qui sait qu'on est bien. OK.
Alors, Richard Desjardin, il n'y a rien qui cite qu'on est bien. Ça faisait suite avec I'm Feeling Good de Nina Simone. Bon. Alors là, de quoi tu voudrais qu'on parle maintenant?
On a parlé beaucoup de gaspillage depuis qu'on a commencé notre discussion, mais je pense qu'on devrait parler, du gaspillage, mais plus précisément, c'est quoi l'état de la situation en ce moment? Qu'est-ce qu'on gaspille? Pourquoi on gaspille? Puis c'est quoi les chiffres liés au gaspillage alimentaire? Fait que si tu me permets d'aller dans cette direction-là. Ben oui. Parce que c'est ça, là, le problème du gaspillage, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment lié avec des enjeux environnementaux quand même assez importants parce qu'on gaspillerait le tiers de la nourriture qui est produite dans le monde. Donc, sur toutes les quantités de nourriture qui sont produites, il y a le tiers qui finit par être jeté. Donc, c'est vraiment des quantités assez impressionnantes. Au Québec, ça représente à peu près ça de notre production aussi, le tiers. On parle de 3,12 millions de tonnes. Puis j'ai fait le calcul. Hey, mon Dieu, en bateau de croisière, c'est quelque chose comme 126 bateaux de croisière. Là. Donc, c'est, c'est beaucoup. Au Canada, là, les chiffres sont en train de changer. Il y a une étude super récente qui est sortie de Second Harvest qui dit que c'est 46 % de la nourriture au Canada qui est gaspillée. Donc, le Canada est un expert en gaspillage alimentaire. On est parmi les pays qui gaspillent le plus dans le monde, malheureusement. Donc, à se questionner, pourquoi nous, on gaspille plus qu'ailleurs? T'sais, qu'est-ce qui fait en sorte que on gaspille plus que dans d'autres pays? Pourquoi on peut plus se le permettre? Est-ce que c'est le lien qu'on a à la nourriture? Ça, c'est vraiment un sujet, le lien qu'on a avec la nourriture, c'est vraiment un sujet qu'on peut élaborer pendant très longtemps. Et je pense que, je ne me trompe pas, on peut rentrer dans ce sujet-là.
Ben, absolument, parce que c'est la thématique de notre émission cette année, les liens Alors, justement, c'est le lien avec la nourriture qui est la thématique de l'émission aujourd'hui. Mm-hmm.
Bien, c'est ça. Bien, en fait, justement, si on embarque dans ce sujet-là, les liens qu'on a avec la nourriture, bien, on exige, partout dans la société, on exige la perfection. Puis nos aliments ne sont pas mis de côté par rapport à ça, dans le sens où les aliments qu'on achète à l'épicerie, on exige qu'ils soient parfaits. Alors que si y en a parmi vous qui jardinent ou qui ont déjà jardiné, on le sait que les aliments qui sortent de notre jardin, ils sont pas parfaits. Des carottes à deux bouts, il y en a. Des aliments croches, il y en a énormément. Si je prenais tout ce que j'ai produit cette année dans mon jardin puis que je voulais le vendre avec les règlements qui existent dans l'industrie, le calibrage qui se fait des fruits et légumes dans l'industrie, probablement que je ne pourrais rien vendre de ce que j'ai produit cette année dans mon petit jardin. Si, mettons, je voulais le vendre. Fait que c'est problématique, ça, de dire que les aliments qui poussent, la majorité, une grande partie, c'est là, en fait, que le bas blesse dans le gaspillage. C'est à cause de ça. C'est parce qu'on exige des aliments qui soient parfaits. Puis à quelque part, au prix que l'épicerie coûte, les gens veulent que leurs aliments soient parfaits. Fait qu'il y a vraiment une grosse problématique. Puis ils se sont habitués à avoir des aliments parfaits à l'épicerie. Fait qu'en fait, il y a des politiques qui devraient changer à ce niveau-là, des règlements sur la longueur des asperges. En bas de, si je ne me trompe pas, c'est 6 pouces, ils ne peuvent pas être vendus. Mais pourtant, ces aliments-là ont nécessité la même quantité de travail pour nos travailleurs agricoles qui travaillent déjà vraiment beaucoup. Ils ont eu besoin d'eau pour pousser ces aliments-là. Tu sais, quand on jette justement une asperge, on se dit, hey, c'est pas grave, mettons, en plus, je la composte. Mais il faut vraiment faire attention parce que cet aliment-là, c'est pas juste l'aliment que vous jetez, c'est toutes les ressources qui ont été utilisées pour la produire. C'est le camion qui a dépensé du pétrole pour venir la porter jusqu'à votre épicerie. C'est les champs aussi qui ont été utilisés pour rien. C'est des champs, des fois, qui ont utilisé des pesticides, qui ont pollué la terre pour rien. Puis quand je parle de terre, puis pourquoi c'est grave de gaspiller une terre agricole? Bien, si on pense que le tiers des aliments sont gaspillés, c'est le tiers des terres agricoles dans le monde qui servent à produire des aliments qui vont être jetés. Cette superficie-là, c'est la superficie du Canada puis de l'Union européenne au complet. Pendant ce temps-là, la population augmente, puis on se dit, bien, il faut nourrir cette population-là, fait qu'il faut aller détruire des terres en Amazonie pour produire plus de terres agricoles. Alors que si on utilisait juste en ce moment les terres qu'on a de façon plus efficace, on n'aurait pas besoin de faire
ça. Mais il n'y a pas déjà... Moi, je trouve, j'aime pas trop l'appellation, mais on parle des légumes moches, là. Mais il n'y a pas déjà dans les épiceries, certaines épiceries, qui ont une section de légumes moches où c'est pas déjà commencé?
Oui. C'est un mouvement qui a commencé depuis certaines années, je dirais depuis à peu près 10 ans. En 2016, il y a eu une loi qui est passée au Québec qu'on avait le droit de vendre ces aliments-là, alors qu'avant 2016, ces aliments-là, c'était pas possible de les vendre. Mais là, c'est rendu une question d'habitude. Les gens les achètent pas parce qu'ils sont pas habitués de les voir, parce que le lien avec l'aliment est perdu. On exige que nos aliments soient parfaits parce que on comprend. C'est comme si on comprenait plus que les aliments venaient de la terre. Tu sais, que ça a poussé à un moment donné. Puis on a comme perdu ce lien-là dans notre tête qui fait en sorte que on exige, c'est ça, aliments.
C'est culturel, dans le fond.
Puis,
moi, là, si je savais que dans telle section d'épicerie, là, c'est les légumes imparfaits, c'est là que j'irais. Puis, ils pourraient les vendre moins cher, tout simplement. Tu sais, exemple, des choux-fleurs. Tu sais, les choux-fleurs, là, sont tous identiques, parfaits. Mais c'est pas comme ça qu'il arrive dans le champ, là. C'est peut-être la moitié des choux-fleurs qui sont dans le champ.
C'est
ceux qui se ramassent à l'épicerie. Les autres sont trop petits ou la couleur marche pas. Mais on pourrait les vendre, tous ces légumes-là, dans l'épicerie, dans une section à part, moins cher.
En effet, il y a ça comme solution. Mais moi, le problème que je vois avec ça, c'est que ces aliments-là, ils ont nécessité tout autant de travail que les autres. Ils ont nécessité autant d'eau que les autres, autant... Fait au final, tu sais, je comprends le principe que si ça encourage les gens à les acheter plus en les mettant moins cher, ben OK, oui, c'est gagnant. Mais pourtant, ces aliments-là, au final, ils valent la même, le même prix que les autres. Fait que c'est notre, nos mentalités qui doivent changer, puis c'est les règlements entourant ce calibrage-là des fruits et légumes qui doivent changer. Puis oui, pour les gens qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils se trouvent ces aliments-là en épicerie, on peut toujours aller demander à notre commis fruits et légumes où est-ce qu'ils se trouvent, parce qu'il y en a des sections. Par exemple, chez Maxi, on parle des imparfaits. Donc, ils vendent une certaine... c'est ça, ces aliments-là qui sont peut-être moins intéressants. Puis c'est ça, en ce moment, ils sont moins chers. Mais moi, ma question, c'est ben pourquoi ils sont moins chers? C'est sûr que les gens vont avoir plus tendance à les acheter, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut au final? Je suis pas certaine.
moi, j'ai une expérience, une anecdote personnelle, c'est que j'aime les mangues, puis habituellement, les mangues sont pas mûres ou c'est pas toujours évident. Puis à un moment donné, je vais à l'épicerie, puis là, il y avait trois mangues qui étaient comme vraiment très mûres, puis là, ils étaient comme genre 25 sous la mangue. Mais je les ai pris. Mais c'est les meilleures mangues que j'ai mangées ma vie.
Ah, ouais.
Il était mûr, là, à perfection.
Oh, wow.
Alors, c'est pour dire, hein. C'est juste l'apparence. Et il n'y a pas une des... Il n'y a aucune autre mangue dans l'épicerie qui était meilleure. Je suis certain que ces trois mangues-là qui étaient... Il aurait pris la poubelle. Il aurait eu le bord de la poubelle.
Ça.
C'est fou.
Puis, tu sais, comme là, tu parles d'aliments qui sont plus mous, plus... Tu sais que leur durée de vie arrive presque à échéance. Mais quand on va à l'épicerie, il faut avoir cette idée-là en tête de « Hey, qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui ou demain? Est-ce que je peux acheter les aliments qui sont peut-être un petit peu plus amochés, un peu plus mous? » Parce que de toute façon, c'est pas grave. Je vais les cuisiner éminemment. Fait que, parce qu'on le sait que l'objectif en achetant les aliments les plus beaux, c'est qu'on se dit « Eux, ils vont durer plus longtemps. » Si c'est un repas qu'on veut faire dans une semaine, ben OK, oui, peut-être prendre celui qu'on pense qui va nous durer plus longtemps. Mais si c'est un. Mais si, par exemple, ma tomate est un petit peu abîmée, elle a des pogs, bien, c'est pas grave si je la cuisine aujourd'hui. Fait qu'on peut l'acheter. Puis, tu sais, on blâme un peu l'industrie en disant qu'ils nous vendent pas des aliments moches, ils nous vendent pas des. Mais c'est parce qu'ils veulent répondre à la demande des consommateurs. Fait qu'il y a un travail à faire des deux sens. Oui, l'industrie a un travail à faire, mais en même temps, nous, il faut qu'on les achète. Il faut qu'on aille voir nos commis fruits et légumes, les responsables de nos épiceries, en disant « Moi, je veux les acheter, ces aliments-là que vous nous donnez, tu sais, que vous fournissez
ça,
pas. »
Ça prendrait, c'est un peu ça que vous faites, une éducation.
C'est ça.
C'est exact. Là le travail. Parce que c'est compliqué en même temps. Je donne un autre exemple, anecdote personnelle, là, mais j'aime beaucoup le maïs en épi, le maïs frais.
Oui.
Et là, c'est sur les derniers milles, là, mais j'ai réussi à en acheter hier.
Ah,
à l'île
d'Orléans.
Allez, c'est ceux qui veulent, je ne sais pas s'il en reste encore, puis il était bon. Mais le maïs en épi, il se conserve mal au frigo. Après 4-5 jours, il n'est plus bon. Et il faut le savoir, ça, quand vous achetez du maïs en épi, achetez pas 12 maïs, à moins que vous ayez
une grosse famille
ou de la visite, là, ouais, parce que vous allez les perdre. Mm-hmm. Alors, il faut acheter en petite quantité des maïs, mettons, moi, j'en mange pas 12 non plus, j'en mange un à la fois. Là,
ben non, c'est
fait
ça.
Fait que j'achète 3 maïs, puis je vais manger du maïs pour souper les 3 prochains jours, tu sais, puis ils vont être bons pendant les 3 jours. Mais là, je me suis ambitionné l'autre fois parce que ça achevait, puis il était plus bon. C'est plus mangeable après une semaine, c'est dégueulasse. Fait que c'est ça, il faut apprendre à connaître les légumes, les fruits, comment
les durées de conservation.
Oui, oui.
Puis oui, c'est ça. Bien, sauf ta bouffe, on a ça aussi sur notre site web. On a toutes les informations par rapport à la conservation des aliments. Fait que justement, comment conserver le maïs le plus longtemps possible quand il est rendu à la limite de est-ce que ça se congèle? Si ça se congèle, est-ce que je peux le blanchir avant? Parce qu'après, mettons qu'on le congèle pour faire un chili. Après, mettre un petit peu de maïs dans notre chili, ça va être très bon. Puis c'est pas grave, même si la texture des grains de maïs a changé un petit peu. Fait qu'il y a comme... Bref, on donne plein de trucs sur notre site.
Mais justement, il me semble que le goût est pas bon là, après quelques... Mais si est-ce qu'on peut le cuisiner, autrement dit, le couper, enlever le grain, puis le congeler,
exact,
puis s'en servir dans les soupes, puis il est comestible. C'est juste que le goût est moins bon.
C'est ce que j'aurais tendance à faire, oui. Puis en fait, moi, personnellement, je fais ça avec tous mes légumes qui sont sur le bord de... parce que, bon, la vie va vite. Puis je dirais que c'est ça la principale cause du gaspillage alimentaire à la maison. C'est toute la charge mentale puis tout le travail qu'on a à faire. Puis moi-même, j'ai deux jeunes enfants puis des fois, ça va vite. Puis je parle de gaspillage alimentaire à longueur de semaine puis malheureusement, j'en gaspille de la nourriture à la maison des fois, ça m'arrive. Puis bref, tout ça pour dire que moi, les aliments mous, justement, mettons le maïs qui est moins intéressant à manger tel quel, ou les aliments qui sont, c'est ça, plus amochés, puis que je me dis, hey, comme ça, ça me tente pas de les manger, puis là, en ce moment, j'ai pas le temps de les cuisiner. Moi, ce que je fais avec, c'est que je les coupe en dés, puis après ça, je viens placer ça au congélateur dans un plat, donc je mets toutes les dés de légumes plus amoché là-dedans. Fait qu'après, je peux faire n'importe quoi avec ça. Je peux faire une omelette, puis je m'en vais chercher des petits cubes de légumes là-dedans, puis je les mets dans mon omelette. Je peux faire des mijotés que je vais me chercher des petits cubes de légumes qui m'intéressent. Après, je peux trier aussi. Tu sais, je peux prendre juste les petits légumes qui m'intéressent, remettre les autres au congélateur pendant un bout. Fait que disons que je fais je fais un chili, bien, je vais aller juste chercher mes petits grains de maïs au congélateur. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc que j'ai trouvé qui est facile à appliquer, d'avoir un bac de légumes. J'ai aussi un bac de fruits au congélateur qu'après, moi, j'utilise pour faire des smoothies, pour faire des desserts des fois. Fait que j'ai des petits cubes. C'est déjà tout prêt. Puis c'est vraiment pour cuisiner, là. C'est pas pour manger tel quel, mais c'est pour intégrer dans un repas qui a cuit longtemps. Fait que la texture, c'est sûr que la texture... En fait, c'est pas grave, même si ça a été congelé, parce que ça va être cuit après. On perd
ça,
pas.
Faire des compotes, ou etc.
C'est ça. Mais souvent, avec, mettons, la pomme, on croque dans une pomme, elle est pâteuse, elle est molle, elle est pas super bonne. Mais plutôt que de l'acheter, il faut développer le réflexe de je vais la couper en cubes, je vais la mettre au congélateur, puis plus tard, je ferai une compote, ou plus tard, je ferai une croustade, ou n'importe quoi. T'sais.
Ou les fraises, qui ça aussi, ça dure pas beaucoup. Mm-hmm. C'est rapide. Alors, ouais. On les fait cuire.
On peut les faire cuire, mais c'est ça, on peut les mettre au congélateur pour les faire cuire plus tard, ouais. Si on n'a pas le temps dans la seconde. Là.
On va prendre une autre petite pause musicale, puis on poursuit avec le gaspillage alimentaire. C'était une petite pause relaxante de Éric Satie. C'est une des gymnopédies de Éric Satie. Alors, Gabriel, on va poursuivre avec le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire encore là-dessus?
Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire, Jacques, là-dessus. J'aurais le goût de continuer avec les légumes moches qu'on parlait, du fait que, à cause de différentes raisons, les aliments moches ne peuvent pas être vendus ou sont souvent pas vendus dans les épiceries. Tu sais, il existe des gens qui prennent ces aliments-là pour en faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y a des marchés alternatifs pour ces aliments-là. C'est le cas notamment à Québec de Raton Provision qui font en fait des paniers avec des aliments déclassés ou des aliments qui sont plus mous. Donc, souvent, par exemple, avec Raton, c'est qu'on a des aliments qui sont peut-être plus tellement frais puis qu'on doit cuisiner dans les prochains jours. Fait que déjà, des aliments qui arrivent à la maison puis qui doivent soit être cuisinés dans les prochains jours ou bien congelés pour une future utilisation. Mais pour vrai, l'ayant essayé, c'est des paniers qui valent la peine, qui sont aussi remplis de fruits et légumes qui sont pas chers. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les fruits et légumes sont rendus excessivement chers puis qu'il y a un autre gaspillage auquel on pense pas toujours, puis c'est le gaspillage qui est plus qualitatif. Puis ça, ce que je veux, parce qu'on pense souvent aux quantités de nourriture qui sont jetées, mais il y a aussi énormément de nourriture qui sont produites pour faire des aliments très sucrés, très gras, qui nuisent à notre santé. Fait que ça, c'est un problème aussi. Puis écoutez, je dis pas que j'en mange jamais des aliments sucrés puis gras. Justement, hier, c'était l'Halloween, je me suis gâtée. mais je pense que c'est devenu tellement facile de manger gras et sucré parce que ces aliments-là, premièrement, ils coûtent vraiment pas cher. Puis c'est connu que les familles qui sont souvent moins nanties se nourrissent vraiment beaucoup de ces aliments-là qui sont pas bons pour nous parce que c'est pas cher. Donc, c'est une des premières raisons. Puis je suis sûre qu'ils mangeraient plus de fruits et légumes s'ils pouvaient se le permettre. Donc, il y a un changement à faire à ce niveau-là aussi de prendre la nourriture puis à quelque part de la gâcher en aliments qui sont pas bons pour nous. Puis il y en a tellement dans les étalages de nos épiceries que il me semble qu'il y aurait une façon de... En tout cas...
Oui. Bien, c'est quoi le nom de l'organisme encore?
De l'épicerie.
Ah, c'est une épicerie.
Oui, bien, c'est comme une espèce d'épicerie fantôme. Là. Fait que c'est situé dans le quartier industriel sur Dalton, si je ne me trompe pas.
Okay.
Puis ça s'appelle Raton Provision. Là. Fait que c'est eux autres, ils vont chercher
Raton Provision.
Oui, Raton Provision.
Faut se rendre sur place.
C'est
puis
ça.
Ils ont des paniers.
Exactement. Ils font la livraison aussi.
Ah, OK.
Mais c'est quelques dollars de plus, là, 5 ou 10, je me rappelle pas. Là, je travaille pas pour eux autres, après tout. Mais c'est vraiment des beaux paniers, des beaux gros paniers bien remplis pour le prix que ça coûte. Là. Moi, l'ayant essayé, je trouve vraiment que c'est intéressant.
Bien, tu sais, en simplicité volontaire, justement, on parle beaucoup de ralentir, de se donner du temps. Puis le temps, entre autres... Ben, pour créer des liens, puis justement améliorer nos liens, améliorer notre lien avec la nourriture, cuisiner, qui est un plaisir de la vie. En fin de compte, on réduit le gaspillage, puis on découvre là, différents aliments, différentes façons de les apprêter. Il me semble que c'est vers là qu'on devrait aller. Là.
Oui. Oh mon Dieu, tellement. Puis c'est ça, tu sais, tantôt, je disais la principale cause du gaspillage alimentaire à la maison, c'est la charge mentale. Parce que maintenant, c'est plus vraiment un plaisir de cuisiner. Quand tu n'as pas le temps de cuisiner puis que tu es à la course, c'est pas un plaisir de cuisiner puis tu n'as pas le goût d'aller chercher des nouvelles techniques pour mieux conserver tes aliments parce que tu n'as tout simplement pas le temps puis tu as besoin de souffler. Fait que nos vies vont tellement vite que de décroître un peu, de réduire, d'être plus en mode simplicité volontaire, dans le sens où de réduire peut-être son temps de travail, de faire moins d'heures si c'est possible, pour prendre le temps de faire les choses soi-même, puis de retrouver ce lien-là qu'on a à la nourriture, c'est peut-être ça la solution
puis
pour lutter contre
le gaspillage. C'est toujours meilleur quand on le fait nous-mêmes.
Oui.
Puis, moi, j'aime beaucoup aller chez Avril. Là,
oui.
Bon. beaucoup parce que j'essaie de cuisiner bio. Puis là, je me suis dit, oh, je vais m'acheter une soupe aux lentilles en boîte. Je me dis, maintenant, je suis pressé, puis j'ai pas de temps. Je vais essayer la soupe aux lentilles. Puis là, je m'ennuyais de ma soupe aux lentilles. En fin de compte, j'ai même pas, je pense, j'ai malheureusement acheté la moitié parce que c'est pas comparable quand on le fait nous-mêmes.
Ça doit être plus salé aussi.
Plus salé, puis en tout cas, quand on prépare nous-mêmes nos choses, c'est toujours meilleur. Il y a une fraîcheur, ou même des... Bon, écoute, on est pressé des fois, là, des salades Fontaine dans la Santé, par exemple, qui sont très bonnes, mais un bon taboulis que tu fais toi-même, là, il va être meilleur que le Fontaine Santé.
Ben
là.
Oui, puis souvent, comme tu viens de le dire un peu avec ton exemple de canne de soupe de lentilles, quand on l'a fait, on sait tout l'énergie, le temps qu'on a mis là-dedans, puis on a moins tendance à le jeter, souvent, versus la canne de lentilles que tu dis, hey, elle m'a coûté 2$, puis j'ai pas, ça m'a pris 3 secondes de mettre ça dans le poêlon, ben, il me semble que c'est moins grave. Mentalement, on dit que c'est moins grave de l'acheter. Là. Fait que de cuisiner, tu sais, oui, on développe des techniques, mais toute l'énergie qu'on met là-dedans, ça nous donne moins envie de
là, on approche de la fin de l'émission. Ça finit dans 2 minutes. Alors, je voudrais qu'on revienne sur Sauve ta bouffe parce que c'est la mission de ce que vous faites, c'est d'éduquer, d'outiller les gens. Alors, qu'est-ce que les gens ou les activités que vous proposez, qu'est-ce que les gens pourraient faire pour venir, s'ils s'intéressent à l'alimentation, pour pouvoir...
Oui.
Profiter de Sauve ta bouffe.
Oui, bien, il y a plein de choses. Il y a premièrement notre site web qui est rempli de trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison. On a aussi produit un balado sur toutes les initiatives qui existent à Québec qui visent à lutter contre le gaspillage. On avait fait notamment un balado avec Moisson, avec Raton. Est-ce qu'on avait fait avec Raton Provision? Hey, je me rappelle plus. Mais non, je pense pas. Mais en tout cas, plein d'initiatives comme ça qui luttent contre le gaspillage alimentaire à Québec, qui est un balado très positif. Ça fait du bien de voir ces solutions-là. Sinon, on a des activités aussi. On a un comité ce mercredi 6 novembre. Donc, pour les gens qui souhaiteraient venir bénévole avec nous pour éventuellement soit faire des cuisines anti-gaspi, de participer au Festival de la décroissance, comme on le parlait au début, de faire part à des kiosques pour sensibiliser les autres au fléau qui est le gaspillage. Fait qu'en fait, arrivez avec votre idée, avec votre projet, puis on va voir si ça fit avec son tabouf aussi. Là.
Puis il y a de l'air des personnes sympathiques, là, parce que j'ai vu vos cuisinières là, puis, au Festival de la décroissance. Là, puis, c'était magnifique, c'était tellement bon. Puis toutes des choses que j'avais jamais goûtées avant, la façon que c'était préparé, il y avait une espèce de des petites craquelins faites à partir d'aubergines.
Oui,
bon,
avec vraiment... une petite sauce comme marinara. Oui. Puis aussi, si je peux prendre un petit quelques secondes pour parler d'un autre projet qui est important pour nous, c'est les frigos communautaires.
Ah.
Parce que une des façons de réduire son gaspillage à la maison, c'est d'aller porter ce qu'on a en trop dans les frigos communautaires. Il y en a partout à Québec. Au Québec, on en a même 250 frigos communautaires. Fait que ça sert vraiment à dire, OK, ben j'ai fait trop de lasagne, par exemple, puis je veux redonner, je veux aller emporter dans un frigo pour que ça bénéficie à quelqu'un dans le besoin. L'important, c'est toujours d'écrire qu'est-ce qu'on a dans le plat puis la date à laquelle on l'a cuisiné. Mais on essaye de plus en plus de mousser ça parce qu'il y a un gros problème d'insécurité.
En tout cas, j'invite les gens d'aller consulter votre site puis de peut-être vous écrire s'ils ont besoin, ils ont des questions, etc., ils ont besoin d'aide. Puis il y a aussi l'épicerie Raton Provision.
Raton Provision, oui.
Ben, merci beaucoup, Gabrielle. C'était
merci,
un plaisir.
Merci, Jacques.
À la prochaine.
À la prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Québec Réveille, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveille, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 1er novembre 2024. Le syndicat canadien de la fonction publique reproche au gouvernement de manquer de rigueur dans la juste rémunération de son personnel dans le secteur de la santé et des services sociaux. Les primes négociées, qui devaient s'appliquer au plus tard le 5 octobre 2024, ne sont toujours pas en vigueur. De plus, le paiement de la rétroactivité se fait lui aussi attendre. Le SCFP ajoute que des milliers de travailleuses et travailleurs du réseau devraient aussi recevoir des paiements rétroactifs d'équité salariale en date du 31 octobre 2024. Le gouvernement a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il briserait cet engagement. L'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec, l'AISQ, a dévoilé hier son modèle d'habitation inclusive en mixité sociale.